7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, au cœur de la prison des femmes. Dans un monde d'hommes, elles ne représentent que 3,5% de la population carcérale en France, un pays régulièrement dénoncé pour les conditions générales de détention, la surpopulation carcérale. Alors, qui sont ces femmes? Quelles sont leurs histoires? Pourquoi le monde pénitentiaire des femmes est si mal connu, les moyens si limités et leur réinsertion si difficile parfois? Nous allons en discuter avec une annienne surveillante de prison. Bonjour Marie-Annick Aurel.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez exercé pendant plus de 35 ans au centre pénitentiaire de Rennes, le seul en France exclusivement réservé aux femmes, et vous racontez cette vie pas banale de surveillante auprès de femmes condamnées à de très longues peines dans un récit écrit à quatre mains aux éditions Talendier. Bonjour Maria Poblette.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste, vous avez déjà publié d'ailleurs un essai sur le banditisme au féminin. Alors au-delà de la France, nous verrons aussi quelle est la situation dans un pays ultra-violent comme le Mexique, où les femmes représentent 5% des personnes incarcérées, dans une immense précarité, y compris lorsqu'elles ont des bébés avec elles, comme nous l'expliquera Gwendolina Duval, correspondante de RFI à Mexico. Nous serons aussi en ligne avec la fondation Noura en Mauritanie, qui intervient auprès de femmes en prison à Nouakchott, à Ouagadougou. Une bonne partie d'entre elles sont condamnées injustement alors qu'elles sont victimes de violences sexuelles.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo. Soyez les bienvenus.
Pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur les femmes en prison et comment vous vous êtes rencontrée avec Marie-Annick Aurel, Maria Poblette?
J'ai rencontré Marie-Annick Aurel il y a quelques années, en 2016 précisément, lorsque je faisais un travail de longue haleine en journalisme sur les femmes incarcérées, les femmes détenues, plutôt qui faisaient de très longues peines au centre pénitentiaire de femmes de Rennes. Et il y avait une femme, major pénitentiaire, qui m'a accompagnée, qui nous a accompagnés, Frédéric Ploquin et moi-même. On était deux grands reporters sur le terrain à ce moment-là. Et Marie-Annick Aurel, je l'ai trouvée très humaine, très proche des détenus, brillante et solaire dans cette prison. Bon, c'est une prison quand même, hein, on est entre quatre murs. Bon, on a fait ce travail journalistique et quelques années plus tard, j'ai eu envie de retourner dans ces lieux de privation de liberté pour donner une visibilité à ces femmes. Et je me suis souvenue que Marie-Annick Aurel partait à la retraite et donc pouvait parler et écrire. Je l'ai rappelé et Marie-Annick Aurel, souvenez-vous Marie-Annick, vous m'avez dit « Ah mais j'attendais que quelqu'un m'appelle pour écrire le livre ».
Vous pouvez donc sortir de votre devoir de réserve en tant qu'ancienne fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, Marie-Annick Aurel?
Alors, tout a été dit par Maria à la rencontre. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis à la retraite depuis 2017, hein, depuis juillet 2017. L'opportunité s'est présentée. Vous pensez bien que j'ai sauté sur l'occasion, puisque moi, faire un livre toute seule, j'en étais incapable. Et avec le soutien plus de Maria Poblette, bon, pour moi, ça a été que du bonheur.
Pourquoi vous n'avez pas terminé votre carrière dans le monde des officiers, puisque Maria Poblette le disait, vous avez terminé votre carrière comme major? Vous auriez pu ensuite passer des concours internes?
Même pas des concours internes, puisque j'étais promue à ce qu'on appelle promue à l'avancement, au tableau d'avancement sur reconnaissance du travail effectué. J'ai toujours refusé cette promotion parce que je m'éloignais du terrain. Les officiers, leur mission, c'est plus d'abord être installé dans un bureau et puis avec beaucoup moins de proximité avec les personnes détenues que les autres fonctionnaires jusqu'au major pénitentiaire.
Mais pendant près de 35 ans, comment a été perçu votre métier par votre entourage, par votre famille avec ses emplois du temps atypiques, les nuits, les week-ends?
Moi, ma famille n'a jamais porté de jugement sur le métier que j'effectuais. C'est plutôt les gens que je rencontrais, des amis, enfin des rencontres lors d'échanges divers et variés, où j'avais des commentaires qui ne me convenaient pas du tout et qui étaient insupportables. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ce livre, pour montrer que le métier surveillant, on ne garde pas des monstres. On n'est pas monstre toute sa vie. Et on est des êtres humains et on fait un métier humain avec des gens qui ont commis des actes graves, soit, ce qui était mon cas, puisque j'accompagnais des longues peines, hein, puisque je ne travaillais pas en maison d'arrêt à cette époque-là. Donc, je voulais montrer à l'opinion publique que le métier de surveillant, c'était un métier de relations humaines.
Difficile tout de même, quand on rentre chez soi le soir, de quitter ce ton sec et neutre.
Très difficile.
Alors, avec ses enfants, par exemple.
Oui. Alors, il faut passer un sas de nettoyage mental, je dirais, pour retrouver une vie normale. Parce que,
Oublier le bruit des clés, par exemple.
Oui, le bruit des clés et puis parfois les échanges houleux, quoi. Parce que quand on dit non à une détenue, il y a une frustration qui s'installe et beaucoup de ces personnes n'acceptent pas la frustration. Mmh. Donc, ça monte tout de suite au créneau, quoi. Mmh.
Alors, vous écrivez toutes les deux, Marie-Annick Aurel et Maria Poblet, que tout le monde peut se retrouver derrière les barreaux en tant que femme. Est-ce que c'est vraiment la réalité quand on regarde les chiffres, Maria Poblet ?
Ah oui, tout à fait. C'est la réalité. C'est vraiment Madame tout le monde. Hein. C'est ce que Marie-Annick Aurel dit et écrit. C'est Madame tout le monde.
Attendez, on a quand même 20% des personnes qui sont illettrées, 30% qui ont un niveau d'éducation secondaire à peine terminé. Elles sont encore plus nombreuses que les hommes à prendre des traitements psychiatriques.
Ou alors, la prison aboutit à prendre des médicaments, parce que la prison rend un peu fou aussi, rend un peu folle.
Beaucoup de magistrats disent quand même au quotidien, on met la misère en prison.
On met la misère en prison, mais il y a aussi des femmes, moi j'ai rencontré, et on en parle dans ce livre aussi, des femmes médecins, des filles de bonne famille, de la bourgeoisie, on n'est pas...
Elles sont très minoritaires.
Elles sont minoritaires, d'accord. Mais elles sont quand même là. Elles sont quand même là.
Marie-Annick Aurel.
Oui, moi je suis complètement d'accord. Elles sont minoritaires, soit c'est vrai que quand vous allez dans une division où il y a 20 détenus, vous n'allez pas trouver 20 médecins. Ça, c'est inévitable. Hein. Mais néanmoins, elles existent. Elles sont là, elles ont commis des actes graves, voire très graves, et elles sont mêlées justement aux autres personnes détenues. Et c'est là que l'interface avec ces différentes catégories de personnes, c'est là qu'on voit qu'il peut se passer des choses, et des choses des fois incroyables. Quoi. Incroyables.
Vous dites que les femmes en prison sont moins visitées que les hommes.
Alors moi je vais répondre, les femmes sont très vite oubliées. Tant qu'elles ne sont pas passées en jugement, les messieurs, alors ça peut être le copain, le mari, l'amant, le collègue de travail, ils vont venir tant que la personne n'est pas jugée. Et quand la personne est jugée, ça s'épure de plus en plus. Pour un peu que la personne détenue soit condamnée à une vingtaine d'années, alors là, ça va très vite. Hein. Dès que la personne est jugée, elle est très vite esselée, très vite.
À l'inverse des hommes, où il y a des compagnes qui vont les attendre derrière les barreaux pendant des années.
Et qui vont les visiter, qui vont leur apporter des vêtements, qui vont se saigner financièrement pour qu'ils manquent de rien. Ce n'est pas le cas des femmes. Hein. Les hommes, ils sont en minorité à soutenir leurs épouses. On verra des frères soutenir leurs sœurs. Ça, on le voit. On verra des parents meurtris par une situation douloureuse en lien avec l'incarcération, qui viendront voir leurs enfants, particulièrement les mamans. Hein. Mais quand on est dans la relation d'amour, avec un homme, ça ne dure pas. Hein. Non, ça ne dure jamais.
Maria Poblet, est-ce que les conditions pénitentiaires sont plus dures ou pas que celles des hommes ?
Alors, on peut noter déjà la différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de surpopulation carcérale. Ça, c'est important.
Alors que c'est le gros débat en ce moment, surpopulation carcérale. Oui. Et on revient au niveau d'avant la pandémie concernant la surpopulation carcérale.
Absolument.
Au niveau national.
Oui. Alors, la problématique des femmes, particulièrement, c'est l'isolement. On a vu ça, c'est l'isolement et c'est donc l'accès à des possibilités de réinsertion, d'ateliers, d'études, etc. Alors, des femmes peuvent être incarcérées. Là, on parle du centre pénitentiaire de femmes de Rennes. Elles sont aussi incarcérées dans des lieux spécifiques, des prisons où il y a 95% d'hommes. Et donc, comme elles ne doivent pas croiser, les hommes et les femmes ne doivent pas se croiser, elles ont peu de possibilités, puisqu'elles doivent être accompagnées, elles ont peu de possibilités d'aller dans des lieux, un atelier, toutes seules. S'il y a, par exemple, en termes de réinsertion, s'il y a quelqu'un de Pôle emploi qui va venir une fois par semaine pour visiter les détenus,
mécaniquement, les femmes sont défavorisées.
Alors, le résultat, c'est qu'une femme verra ce monsieur de Pôle emploi une fois par mois et pas une fois par semaine. C'est-à-dire que c'est la mécanique. Elles ne sont pas plus défavorisées, mais c'est... Et puis, au CPF, au centre de Rennes, la problématique, c'est aussi le nombre... Mais crucial, le manquement d'ateliers et de possibilités de réinsertion par le travail.
On va en parler, bien sûr, de la réinsertion. Alors, qui sont ces femmes, d'abord, derrière les barreaux? Comment vivent-elles leur privation de liberté? Vous avez côtoyé, Marie-Annick Aurel, des destins tragiques, des histoires parfois terrifiantes. Comment rendre, malgré tout, la prison humaine dans ces conditions? Nous en parlons dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Marie-Annick Aurel, Maria Poblet, vous signez à quatre mains au cœur de la prison des femmes. Marie-Annick Aurel, vous avez été surveillante de prison à la prison de Rennes, une des rares prisons en France uniquement pour les femmes. Je rappelle que les femmes sont à peu près 3,5% de la totalité des détenus en France. Il y a d'abord des femmes qui sont condamnées à de longues peines pour des infanticides. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, Marie-Annick Aurel. Il y a Anne qui a tué son enfant décédé faute de soins, de nourriture. Il y a des femmes aussi dont le procès a été ultra médiatisé, comme celui de la mère de Marina, une petite fille de 8 ans dont toute la France a découvert le terrible sort il y a plusieurs années. Sa mère est condamnée à 30 ans de réclusion, dont 20 ans de sûreté pour actes de torture et barbarie ayant entraîné la mort de Marine. Tous les autres enfants d'ailleurs de cette femme sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Comment ces femmes, dont le procès est connu des autres détenus, vivent leur détention?
Ces personnes détenues vivent plus difficilement leur détention. Parce que, comme vous venez bien de le dire, c'est les médias les ont ciblées, donc inévitablement tout le monde est au courant de ce qu'elles ont fait au moindre détail. Néanmoins, la vie en détention doit être à l'identique pour chacune. Et le personnel de surveillance est là pour protéger les détenus. Il est hors de question qu'on laisse faire en prison la loi du plus fort. Ces femmes-là, elles ont leur place. Elles la font. Elles ont beaucoup de difficultés. Elles doivent se battre certainement plus que les autres. Elles n'ont pas le droit à l'erreur. Mais néanmoins, nous, les pénitentiaires, on fait ce qu'il faut pour qu'elles trouvent leur place à travers le travail, à travers les activités. On va peut-être être un peu plus vigilants sur les relations qu'elles ont, sur leurs déplacements. On va être un peu plus vigilants parce qu'on sait très bien qu'elles peuvent être en danger, plus que les autres.
Et vous, justement, en tant que pénitentiaire, Marie-Annick Aurel, vous avez eu, par exemple, Myriam Badawi, qui a été condamnée dans la célèbre affaire Outreau, l'affaire d'Outreau, condamnée à 15 ans pour viol et agression sexuelle sur 10 enfants, pour avoir prostitué aussi ses propres enfants. Vous avez eu Monique Olivier, la compagne et complice du tueur en série Michel Fourniret. Comment vous avez vécu dans ce catalogue d'horreurs de l'humanité? Comment faire que la peine de prison conserve un sens, finalement?
Alors, il y a deux réponses dans votre question. La première réponse que je vais pouvoir vous donner, je n'ai pas honte de le dire, que pour ces personnes-là, quand je les avais dans mon bureau en entretien, parce que c'était des personnes que j'ai accompagnées, c'était plus difficile pour moi parce que j'avais beau faire un travail intérieur, j'y arrivais pas. J'avais les victimes dans ma tête. L'affaire Outreau, j'avais les victimes dans la tête, j'avais la boulangère, j'avais l'huissier, j'avais l'infirmière, j'avais tout un défilé de victimes et j'avais Badawi devant moi. Donc c'était très très compliqué. Mais on avait mis en place une manière de prendre en charge cette personne détenue, puisque je n'étais pas la seule à avoir cette difficulté-là, et on la recevait toujours à deux, ce qui permettait de faciliter l'entretien.
Maria Poblet, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, racontez, Marie-Annie, comment vous avez souvent, justement, pour faire face à ces personnes avec lesquelles ben, c'était plus difficile, vous travailliez toujours en équipe. Le travail d'équipe est quand même très, très important. Vous n'étiez pas seule, vous n'avez jamais été seule, en fait.
Non, j'ai jamais été seule.
L'équipe, elle porte jamais. Beaucoup. Hein, et ça, je l'ai vraiment... je l'ai vu, hein, Le travail se faire devant moi, ils sont vraiment, c'est une équipe, et ça c'est vraiment formidable.
C'est ce qui permet de tenir le coup.
Ah bah oui, sans l'équipe on ne tient pas, puisque quand vous sentez, on va reparler de la détenue, enfin Badawi ou même Olivier, enfin peu importe.
Myriam Badawi, quand même, vous racontez dans le livre que elle est juste ingérable, elle est insupportable, elle se plaint en permanence, elle fait des histoires pour tout, elle se victimise pour tout et n'importe quoi, alors que c'est un monstre en fait.
Oui, mais elle a oublié ça. Elle a oublié, mais elle a oublié depuis longtemps les faits pour lesquels elle est incarcérée. Elle les a oubliés, puisque de toute façon, au départ, et je fermerai la parenthèse très rapidement, le juge qui instruisait cette affaire, le juge lui donnait raison. Alors vous pensez bien qu'elle était au haut du sommet, au haut du podium, hein, et elle a eu ce cliché-là qui lui a collé à la peau, et elle a eu bien du mal à s'en défaire, même si elle a été reconnue coupable. Dans la mesure où un magistrat lui a donné de l'aura, ben... elle a un peu joué là-dessus. Donc, elle a voulu jouer avec nous, mais nous, on est en équipe. Donc, je reprends la deuxième phase de ma réponse, où lorsque vous travaillez en prison, on ne peut pas travailler seul. C'est impossible. D'abord, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il peut y avoir des déviances et il faut absolument les éviter. Et travailler en équipe, passer le relais. Et moi, quand j'étais incapable de gérer une situation, et entre autres avec cette personne-là ou avec d'autres, je passais le relais à mon collègue tout en restant présente. Mais je passais le relais. Alors, j'avais pas envie de m'écorcher plus.
Vous avez des femmes qui sont condamnées pour trafic de drogue. Vous avez les multirécidivistes qui sont à peine libérées qu'elles reviennent avec une nouvelle condamnation pour viol avec violence. Et ça commence très jeune. Et puis, vous décrivez la montée du communautarisme. Comment vous avez vu évoluer le profil sociologique des femmes, leur façon de se positionner dans la société ?
Eh bien, oui, en effet, le montée du communautarisme, moi, je l'ai senti à travers ces jeunes détenus, hein, je dirais moins de 25 ans, entre 18 et moins de 25 ans, des petites jeunes filles là, qui arrivaient de la cité, qui avaient grandi dans la cité avec des frères, bien, pas bien, enfin, toujours, elles avaient certains codes. Qui nous interpellait quand même. Hein. Le tout de suite, je refuse le non, et puis quand j'ai pas, je me sers. Voilà. Alors là, c'est peut-être très, très compliqué. Hein. Donc nous aussi, on a réfléchi à une autre manière de prendre la situation en main, puisqu'il n'était pas question que ces femmes-là fassent la loi. C'est nous qui posons le cadre, c'est nous qui faisons respecter les règles et la loi.
Ça veut dire donc que votre métier est devenu de plus en plus difficile, en fait.
Oui, tout à fait. De plus en plus compliqué. Et là, autant moi, lorsque j'ai démarré en qualité de surveillante, le mot « confiance » avait une grande importance. Faire confiance. Une détenue qui vous disait, lorsqu'elle sortait de son unité de vie, « Madame, je me rends à l'infirmerie », il n'y avait pas de double contrôle. Elle nous disait « je me rends à l'infirmerie », elle y allait, point. Parce qu'au centre pénitentiaire de Rennes, les déplacements sont libres. Hein. D'un point A à un point B, vous n'êtes pas accompagné. Hein. C'est un centre de détention, donc les mouvements sont vraiment très libres. Par contre, là, quand ces jeunes femmes-là sont arrivées, elles nous disaient « ben oui, bon, ben là, je vais au sport ». Bon, double contrôle, vous contrôliez le sport et n'y étiez pas. Ça, c'est sûr. Donc, à nous d'adapter notre manière de travailler. C'est-à-dire que c'est nous qui devons poser le cadre, ce n'est pas elle. Et ça a été très, très compliqué, oui, en effet. Épuisant même, par moments.
Est-ce qu'on peut malgré tout parler de solidarité entre les femmes, entre les communautés ?
Solidarité entre les longues peines, moi je l'ai vécu. Hein. Une détenue, elles ne se connaissent pas. Une détenue longue peine arrive, condamnée à perpétuité, 30 ans, 25 ans, 20 ans. Il y a un regard de bienveillance, de la part de l'autre détenu qui est dans la même situation, mais qui a fait déjà quelques années et qui tend la main, qui lui dit bah voilà, tu es condamné à 25 ans, mais moi j'ai pris perpète et tu vois, je tiens debout. Alors, essaye de rester debout, essaye de t'impliquer dans tel et tel atelier et tu vas t'en sortir. Il y a vraiment un soutien. Moi, je l'ai vu, je l'ai observé. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein, mais jusqu'en 2017, puisque j'ai quand même vu la mort d'une détenue longue peine, dont je parle dans mon livre d'ailleurs.
Qui s'est suicidée.
Oui, j'ai eu un suicide en effet d'une longue peine. Mais là, je pensais
ah oui,
à la
qui est décédée
personne détenue
de maladie.
Qui est décédée d'un cancer. Ouais. Hein. Eh bien, je peux vous dire que les longues peines, et elles ne se ressemblaient pas du tout. Et les délits étaient complètement différents. Hein. Elles arrivaient d'univers complètement différents les unes des autres. Eh bien, cette détenue-là, elle a été portée par les longues peines, jusqu'à la fin. Donc, c'est l'image que moi, j'ai gardée de la longue peine. Après... Je pourrais parler du communautarisme, en effet, toutes ces jeunes filles qui se regroupent sur les cours de promenade, toutes ces Africaines, tous les gens du voyage, ça aussi, hein, c'est un classique, mais dans toutes les prisons.
Vous restez avec nous, Maria Poblette, Marianick Aurel, au cœur de la prison des femmes. Dans quelques instants, on sera en ligne aussi avec notre correspondante à Mexico pour voir quelle est la réalité de l'incarcération des femmes au Mexique. Ça sera juste après Zonzon Bams.
Zonzon, on t'a vu, t'es jury des assises, bien trop vite résilie. Ton contrat pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême, tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu, je ne vois que ma haine aujourd'hui, ils t'ont vu. Zon zon zon, on t'a vu t'es. Clic clac, c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. Ta nouvelle vie va commencer, ta liberté s'est envolée. Tu ne l'aurais pas imaginé, ta vie est programmée, minutée. Tes gestes sont contrôlés, surveillés. Ma clé non-stop, ma ton, ma stock te bloque. J'évoque les coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension. C'est le monde des coups de pression. Attention, des tensions fermes ou provisoires. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
Soulevé pour un délit mineur. T'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer. Dealer, justicier, quelle est l'ampleur quand ils te rangent, tem-tem, dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs. À la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs. Du pointeur au kidnappeur ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. La liste de mauvais plans, elle, s'agrandit. Mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes le souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari.
Je râle pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je râle pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
On a aboli la peine de mort par souci de bonne conscience. Mais la pire des sentences reste qu'on ne démolit pas les remords. Dans ta vie pleine d'ennuis, tu médites sur ton sort. Tu végètes sur ton lit comme le fruit qui mûrit. Petit à petit, trop, tu pourris. Tu choisis de faire le tour de tes souvenirs. Mieux vaut qu'espérer s'en sortir. Ta joie de vivre aujourd'hui, ses rares lettres, manuscrites et peu de visites. Avoue que tu cogites. Vie à la prison, sortiront des amis d'élite. Terrassée par cette vérité, une relation privilégiée lira les rescapés. La tornade est passée, le bateau a coulé. On réembarque ceux qui restent à côté. Famille, amis, dans la même galère. On sait pourtant qu'il n'y a rien à faire. La terre tourne, regarde par la fenêtre.
Je râle pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je râle pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
Ailleurs dans le monde, l'univers carcéral peut s'avérer très différent. Faisons un tour au Mexique maintenant, où environ 12 500 femmes sont actuellement privées de liberté, soit un peu plus de 5% de la population carcérale. Comme pour beaucoup d'autres institutions au Mexique, le système pénitentiaire est épuisé, corrompu, miné par le manque de moyens, la violence quotidienne. Malgré les alertes des violations des droits de l'homme par les ONG depuis des décennies, la condition des femmes incarcérées est presque complètement ignorée des pouvoirs. pouvoirs publics. En prison, elles souffrent de conditions précaires et leur sort est laissé à l'abandon. Nous en parlons avec vous, Gwendolina Duval, correspondante pour RFI à Mexico.
Oui, l'exemple de Juana Alonso révèle bien en fait cette vulnérabilité des femmes au sein du milieu carcéral. Son histoire a beaucoup fait parler au Mexique. Cette jeune femme indigène guatémaltèque a été emprisonnée pendant 7 ans dans un centre pénitentiaire à Reynosa, dans le nord du pays, par erreur en fait. Elle a passé tout ce temps en détention préventive. La jeune femme ne parlait pas espagnol et abusée par les autorités lors de son arrestation, elle a signé des aveux pour un crime qu'elle n'avait pas commis. À sa libération, Juana Alonso a dénoncé les terribles conditions de sa détention et les tortures qu'elle a subies de la part des autorités. Malheureusement, en fait, son cas n'est pas unique au Mexique. Selon les chiffres officiels, en 2021, la moitié des femmes incarcérées n'ont pas encore été jugées et plus d'un tiers déclare avoir subi des pressions ou des menaces pour se déclarer coupable.
Et quand les femmes sont emprisonnées, qu'elles soient condamnées ou en détention préventive, c'est pour quel motif généralement au Mexique ?
Eh bien, pour un quart d'entre elles, c'est pour des faits d'enlèvement et de séquestration, souvent dans un but d'extorquer de l'argent à la victime ou bien à sa famille. Ensuite, environ une détenue sur 5 purge une peine pour un homicide volontaire. Et puis, selon les chiffres, 15% des femmes en prison ont été arrêtées pour possession ou trafic de drogue. Dans ces cas-là, les femmes sont généralement impliquées dans les réseaux criminels par leurs proches, un membre de leur famille ou bien un conjoint.
Et dans quelles conditions vivent ces femmes, souvent très jeunes, hein, moins d'un tiers à moins de 30 ans, je crois ?
Oui, de manière générale, les conditions d'emprisonnement au Mexique sont déplorables. Et c'est encore pire pour les femmes. Déjà, il faut savoir qu'il n'existe que 11 centres pénitentiaires exclusivement féminins. Ces derniers manquent cruellement de moyens, ils sont complètement saturés. Il n'est pas rare que des détenus vivent à 15 ou plus dans la même cellule. Et donc, la plupart des femmes sont emprisonnées dans des établissements mixtes. En 2019, la Commission nationale des droits de l'homme a lancé une alerte sur cette situation, car les très nombreuses défaillances du système pénitentiaire, à la fois dans l'organisation et dans les infrastructures, ne permettent pas de garantir la séparation entre les hommes et les femmes. Une détenue sur 5 déclare avoir subi des violences, agressions sexuelles ou viols pendant son incarcération. Et plusieurs ONG dénoncent le manque de protection des femmes en prison. Mais faute d'intérêt des pouvoirs publics, des politiques, la situation peine réellement à évoluer.
Un autre phénomène important et inquiétant au Mexique, beaucoup d'enfants naissent en prison et ces grossesses, dont le début précède ou pas d'ailleurs l'incarcération, sont généralement synonymes de rupture sociale, de rupture familiale.
Oui, exactement. Les statistiques montrent que plus d'une détenue sur 10 a été enceinte en prison. Et dans la très grande majorité des cas, elle mène sa grossesse jusqu'à son terme. D'ailleurs, dans des conditions de précarité extrême, hein, quasi 20% d'entre elles n'ont jamais accès à une consultation avec un médecin. Puis, par ailleurs, selon la Commission des droits de l'homme, le sort de ces enfants nés en prison et de leur mère est des plus préoccupants parce qu'ils sont victimes de discrimination, car beaucoup plus que les hommes, les femmes incarcérées au Mexique sont isolées socialement, elles sont rejetées ensuite par leur famille, par leurs parents. Et puis lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ans, il est confié généralement aux grands-parents ou bien placé en orphelinat. Et dès lors, l'ONG Reinserta signale qu'un tiers des femmes qui ont accouché en prison ne reçoivent jamais la visite de l'enfant ensuite.
Merci beaucoup Gwendolina Duval pour ce point au Mexique sur l'incarcération des femmes, 5% de la population carcérale. Marianic Aurel, Maria Poblet, vous signez Au cœur de la prison des femmes. Ça se passe à Rennes. C'est la seule prison exclusivement réservée à des femmes dans laquelle vous avez travaillé pendant près de 35 ans. Marianic Aurel, en tant que surveillante. La France a progressé sur la façon dont les femmes peuvent garder un lien avec leurs enfants, même si ça reste extrêmement insuffisant.
Oui, la France a progressé, mais je suis pas, je valide pas le mot insuffisant. Pour l'avoir vécu, j'ai vu des mamans garder leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 mois. Vous savez, quand un enfant commence à être debout et à marcher et que la porte se referme le soir à 19h, 19h30, dans une cellule qui fait 11 mètres carrés, parce que ces cellules-là faisaient 11 mètres carrés, je ne sais pas si c'est vraiment la place d'un enfant d'être en prison. Moi, en ce qui me concerne, si j'avais un avis à donner, je dis non. Que l'enfant vienne passer la journée avec sa maman, le rencontrer, il y a des UVF.
Des unités de vie hein, familiales.
Oui, les unités
qui sont
de vie familiales.
Des appartements dans la prison.
Oui, tout à fait. Là, c'est bien. Mais un enfant à demeure dans un quartier mère-enfant, comme il en existe entre autres à Fleury-Mérogis, la prison, elle n'a pas vocation de garder des enfants. Hein. Moi, c'est ma position. Hein.
Oui, c'est
Maria
vrai,
Poblet.
Je voudrais intervenir, Marie-Annick, mais par ailleurs, ce lien même, on sait bien que les bébés ne sont pas emprisonnés, hein, juridiquement, emprisonnés. Moi, ce que j'ai senti aussi quand même dans cette nursery que j'ai visitée il y a quelques années avec vous-même, c'est quand même un lien, et il y a un lien qui se crée. Et on sait très bien que les premiers mois de la vie sont...
L'attachement, finalement.
L'attachement se fait, l'odeur de la mère, même si, effectivement, moi, ça m'a fait... ça m'a fait de la peine, effectivement, de voir ces bébés dans les bras de leur mère détenus.
Vous-même, vous n'aviez pas le droit, d'ailleurs, hein, de prendre dans vos bras ces enfants, ces bébés qui étaient avec leur mère incarcérée, Marie-Annie Corel.
Oui, non, on n'avait pas le droit.
C'est le règlement.
C'est le règlement. Hein, on était présents. D'ailleurs, la prise en charge de l'enfant, on avait peu de choses à dire, sauf, bien sûr, si on sentait que l'enfant était en danger, puisqu'on avait une équipe pluridisciplinaire de la protection maternelle infantile de Rennes qui intervenait tous les jours. Hein. Nous, notre rôle, c'était la nuit, si la maman appelait ou si la maman n'était pas bien, il fallait prendre des dispositions rapides. Mais autrement, non, il y avait de l'aide. On était les enfants, c'est pas notre... On les prend pas en charge, les enfants.
Depuis le début de cette émission, nous disons combien l'incarcération des femmes est un volet oublié, finalement, hein, des politiques d'incarcération en France. Et pour cause, elles ne sont que 3,5% de femmes parmi la totalité de la population carcérale. Je vous ai pas encore posé cette question évidente, mais finalement, pourquoi les femmes sont dans une telle minorité? Parce que là, pour le coup... Faut-il souhaiter la parité? Maria Poblet.
Alors, moi, j'ai quelque chose à dire, très important. Les femmes sont moins condamnées que les hommes. Parce que elles sont moins condamnées, les magistrats estiment qu'elles ont le droit, pas à l'erreur, mais avec plein de guillemets, donc elles sont moins condamnées. Ça, c'est les statistiques sont formelles.
À fait égal.
À fait égal, elles sont moins condamnées. Parce que, alors, on parle de parité, on parle de féminisme, c'est pas possible, c'est pas entendable qu'une femme fasse de si grosses bêtises. Donc on va jusque-là, c'est-à-dire qu'on va se dire, non, elles sont... Alors, sur les chiffres de la maternité, 2/3 des femmes détenues sont mères, avant les faits, pendant les faits ou pendant la détention. Donc voilà, une maman ne peut pas faire de bêtises, donc moins condamnée.
Marie-Annick Aurel.
Oui, je partage complètement. Mais oui, c'est vrai que l'opinion publique peut pas comprendre qu'une personne, qu'une femme va tuer, elle va avoir du sang sur les mains, ça c'est sûr. Hein. Et elle sera plus et le regard porté par l'opinion publique sera beaucoup plus dur, hein. Beaucoup beaucoup plus dur. Alors que quand un homme le fait, c'est aujourd'hui tout juste si on banalise pas.
Marie-Annick Aurel, avec vous, Maria Poblet, vous publiez Au cœur de la prison des femmes. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous donnons la parole à une association en Mauritanie qui intervient auprès de femmes incarcérées.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI, nous parlons des femmes en prison et nous sommes en ligne avec le coordinateur de projet de la fondation Noura, Abdoulilaïf Chérif. Bonjour monsieur.
Bonjour Emmanuel.
Vous intervenez auprès des femmes en prison en Mauritanie. Il y a une prison pour femmes à Nouakchott ?
Exactement. Il y a une prison pour femmes à Nouakchott, un quartier réservé aux femmes à la prison de Nouadhibou.
La capitale économique du pays. Donc, dans les deux villes, combien de femmes détenues en Mauritanie ?
Actuellement, nous avons, au niveau des deux prisons, à peu près une soixantaine de femmes détenues.
Donc là aussi, elles sont très minoritaires par rapport à la population carcérale. Je précise qu'on est dans un pays de près de 5 millions d'habitants. Pour quelles raisons des femmes se retrouvent derrière les barreaux en Mauritanie ?
En fait, si nous prenons, en consultant les statistiques de notre base de données en 2021, nous avons eu 89 détenues. Et sur ces 89 détenues, 50% d'entre elles étaient incarcérées pour des raisons de zina ou adultère, 25% pour des questions de vol et 25% pour des infractions diverses.
Alors, zina, ça peut être adultère, ça peut être aussi relation avant le mariage. Hein. Et donc, qui dit relation, avant le mariage, ça peut donc être le résultat d'une agression sexuelle, d'un viol.
Exactement. En fait, pour les personnes qui sont en prison pour l'adultère, c'est-à-dire le zina, avec les écoutes que nous avons eues, nous avons pu catégoriser deux types de personnes qui, pour moi, sont tout autant victimes l'une que l'autre. Nous avons les personnes qui sont là-bas pour la prostitution et nous avons des personnes qui sont victimes de viol et qui se retrouvent en prison. Pour la première catégorie de personnes, ce sont souvent les personnes qui sont issues des couches les plus défavorisées de la société mauritanienne, dans une pauvreté extrême et qui sont utilisées dans des réseaux d'exploitation sexuelle. Pour la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont victimes de viol qui se retrouvent en prison, c'est un problème qu'on peut dire, une problématique multidimensionnelle. Parce qu'on a d'abord un problème au niveau social, parce que les personnes victimes de viol ont très souvent peur d'en parler, vu le regard que porte la société mauritanienne par rapport à ce sujet.
Et vu le risque qu'elles ont de se retrouver derrière les barreaux si elles dénoncent leur agresseur, finalement.
J'allais en venir à ce fait. Mais aussi, il y a un problème culturel parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des agresseurs de ces personnes-là étaient issus de leur entourage proche, c'est-à-dire soit un membre de la famille, soit un ami. Donc, dans ce cas-là, soit elles n'osent pas confronter cette personne ou si elles osent, en fait, le dénoncer, le problème est étouffé au profit de la cohésion sociale. Ensuite, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, elles ont une certaine appréhension à aller porter plainte à la police. Parce que lorsque une personne porte plainte pour un viol, il faut qu'elle prouve que la relation était sans consentement. Donc, vous imaginez. Et ensuite,
il faut des témoins. Ce qui, par définition, c'est rare en général. Hein.
Pas forcément des témoins. Il faut que l'histoire en fait, qu'elle raconte soit assez convaincante. Vu que la plupart du temps, les viols sont déclarés bien après. Il n'y a plus aucune preuve de ce viol-là. Ils sont déclarés bien après, donc elles se retrouvent dans cette situation-là. Et c'est encore plus compliqué pour celles qui tombent enceintes après leur viol. Parce que dans la loi mauritanienne, il y a trois conditions pour constater un adultère ou un zina. C'est soit le témoignage de quatre personnes, l'aveu de la personne, ou le constat d'un grossesse. Et le plus souvent, les conditions en fait, dans lesquelles il n'y a pas d'éclaircissement par rapport aux raisons de la grossesse.
Ça, c'est dans le code pénal, dans la loi islamique ?
Oui, dans le code pénal mauritanien, les trois conditions pour constater un adultère sont le témoignage de quatre personnes, l'aveu de l'auteur ou le constat d'une grossesse.
Mais alors vous, à la Fondation Noura, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous intervenez auprès de ces femmes ? Et qu'est-ce que vous demandez sur le plan juridique et de la loi ?
Donc nous, au niveau de la Fondation Noura, on a un projet qui s'appelle Monitoring et accès à la justice, qui est financé par l'UNICEF et qui met à la disposition de ces femmes un paquet d'activités socio-éducatives, mais aussi des services comme l'assistance judiciaire, la médiation familiale, l'assistance psychosociale. Donc, pour le cas des jeunes femmes qui sont victimes de viol et qui sont résidentes à Nouakchott, parce que nous n'intervenons qu'à Nouakchott, elles peuvent bénéficier d'une assistance judiciaire de la part de la Fondation Noura, mais aussi d'une assistance psychosociale pour leur accompagnement pendant tout leur séjour carcéral. Donc, au niveau de la loi, il y a une loi qui est passé en conseil de ministre à deux reprises, en 2016 et en 2018, et qui a été rejeté par le Parlement, et qui qui est repassé encore en conseil des ministres en 2020 et qui devrait normalement permettre déjà de définir ce qu'est un viol, ce qui n'est pas encore le cas en Mauritanie, de faciliter les procédures de plainte, d'aggraver les peines pour les viols et surtout la création de chances spécifiques au niveau des tribunaux en ce qui concerne les VBG.
Et de faire en sorte que des femmes victimes de viol ne se retrouvent pas doublement victimes, c'est-à-dire exclues de la société, agressées et en plus privées de leur liberté derrière les barreaux. Merci beaucoup à vous, Abdoul Ilyaï Chérif, coordinateur de projet à la Fondation Noura, qui intervient auprès des femmes en prison à Nouakchott. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci Emmanuel, merci à l'excellente journée.
Merci.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Retour en France avec votre livre Marie-Annick Aurel, Maria Poblette, au cœur de la prison des femmes. Vous reconnaissez parfois, non pas des similitudes, mais je veux dire, parfois une sensation de double peine pour des femmes qui sont incarcérées, Maria Poblette.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Elles vivent une double peine, elles sont isolées. On sait qu'elles sont très nombreuses à être indigentes. Là, il y a eu un rapport qui est sorti d'Emmaüs il y a quelques semaines sur l'état de pauvreté des femmes détenues, où on lit que une majorité de ces femmes détenues ont moins de 50 euros par mois pour vivre. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont, voilà, elles sont punies. Bon, elles sont punies, elles ont fait des grosses bêtises, elles sont punies. Mais elles sont encore plus punies parce qu'elles n'arrivent pas à accéder au travail en prison. Elles n'arrivent pas à se réinsérer correctement. Donc, pour moi, c'est évident et c'est l'une des raisons. Enfin, c'est un cri d'alarme qu'on pousse avec Marie-Annick Aurel parce que voilà, c'est pas possible quoi.
Marie-Annick Aurel, qu'en est-il de la réinsertion de ces femmes puisque vous avez exercé auprès de femmes condamnées à de très longues peines pour des crimes? Quelles sont les conséquences déjà de plusieurs années passées en prison et quelle est leur capacité à se réinsérer en tant que femme?
La capacité de réinsérer, ça dépend de la détenue en elle-même. Vous avez des détenues, moi j'en ai connu, condamnées à des très longues peines, qui ont très bien rebondi parce que pendant leur incarcération, elles ont soit suivi une formation, soit repris des études, soit travaillé. Donc, si vous voulez, il y a eu des leviers qui se sont mis en place au sein de la prison, au sein de l'administration pénitentiaire. Et ces femmes-là ont pris moi je dis souvent, elles ont pris le wagon, quoi. Elles ont pris le train en route, quoi. Hein. Et elles tiennent debout. Par contre, vous en avez malheureusement, la pathologie mentale est très présente dans les établissements pénitentiaires. Je vais vous parler des femmes. Moi, j'ai côtoyé des détenus qui n'avaient rien à faire en prison. Je ne pense pas qu'une schizophrène, vous la condamnez à 20 ans. Je ne pense pas qu'au bout de 12 ans, quand elle sortira, sa maladie, elle sera toujours présente et elle aura même dégénéré, je dirais. Donc, ces filles-là, malheureusement, ben, leur porte de sortie, c'est l'hôpital, le psy. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Ça dépend tout. Moi, je dis la réinsertion, tout dépend de l'individu, de ce qu'il met dans sa peine, dans l'exécution de sa peine.
Vous avez aimé, dans le fond, ce métier, Marie-Annick Aurel?
Ah bah tout à fait, oui, je l'ai aimé, j'ai fait 4 ans de plus, donc je devais partir à 55 ans, je suis partie à 59 ans, je l'ai aimé, j'y ai mis du sens, et puis...
Et pourquoi, dans le fond, vous avez aimé ce métier à ce point-là?
Parce que j'ai mis du sens dans mon métier. Tous les jours étaient un jour nouveau, hein. C'est pas routinier. Quelqu'un qui dit que le métier de surveillance est routinier, je sais pas où il a été chercher ça, il a dû se tromper, hein. Parce que moi, ma journée, elle commençait les dernières années, hein. Elle commençait à 9h, elle finissait à 17h. Je savais jamais ce qui allait se passer, hein. Si c'était bien, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des coups de folie, des rigolades, je savais rien, hein. C'est de l'improvisation H24 hein, là-dedans. Hein. Donc, c'est un métier quand même qui vous apporte. Moi, ça m'a apporté d'abord des belles rencontres. Je suis désolée. Il y a des détenus, je suis désolée de dire ça, je vais peut-être choquer, mais il y a des personnes détenues que j'aurais bien voulu rencontrer en dehors des murs parce que c'était des gens très intéressants.
Il faut lire le livre écrit à quatre mains avec vous, Maria Poblete, Marie-Annick Aurel, Au cœur de la prison des femmes, aux éditions Talendier. Merci à toutes les deux. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir invités.
On se quitte avec le rappeur Stommy Bugsy, l'un des rares à évoquer ce sujet, une femme en prison.
Je me rappelle la première fois que je l'ai vue. J'étais venu pour faire un concert, jamais j'aurais cru. Dans cet enfer de portes bloquées, de barbelés, j'ai totalement fondu. Quand elle m'a regardé, la vie à sa façon, bien à elle d'amener les choses. Coup de foudre dans une prison et mon cœur explose. Pour détendre l'atmosphère de ces filles qu'on incarcère. Tout est peint de vert clair et de rose. Y'a que des anges brisés, des regards blasés. Une certaine fierté, un malaise déguisé. Sur les ailes du temps, leur joie s'est envolée. Comme ce qu'on a de plus cher, la liberté. Je peux pas admettre que certaines ont commis des crimes. Tu les aurais vues avec leur doux visage de gamine. L'espoir, l'amour, enfermé en cage. Comme une vilaine cicatrice sur un si beau visage. Savoir ce qui s'est passé, et pourquoi, du comment, et surtout leur passé. Elles ne parlent pas du présent, mais que de leur passé. Elles me disent passe le bonjour à la vie dehors. Malgré tout, elles ont la soif de vivre sous le mirador. J'espère donner du rêve là où certaines donnent la mort. Je me sens même coupable d'être libre. À chaque pas sur le sol, c'est tout mon corps qui vibre. Si je pouvais scier les barreaux avec une mélodie. Souvent au lit, je repense à leur mélancolie. Celles qui reçoivent très peu de lettres et jamais de colis. C'est pas marrant de voir son bébé au parloir. Et puis tout le temps, éviter les coups de rasoir. C'est pas la place d'une fille, c'est pas la place d'une femme. La prison, y'a rien de bon, je la condamne. Ton corps est prisonnier, mais fais évader ton âme. Se sont transformés en matricules. Certaines ont été rejetées par leur famille. Alors elles se réfugient dans le silence, cherchent des ennemis. Quand la lune est pleine, les cœurs se vident. Plaisir solitaire même pour les petites caïdes. Pas besoin de manuel pour prier l'éternel. De la fenêtre condamnée, elles aperçoivent un bout de ciel. Repense à la belle vie qu'elles avaient jadis. En quelques secondes, tout tombe dans le précipice. Jeune femme, tiens-toi à carreau. Avec mon micro, je viendrai pour scier des barreaux.
Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast, sur les plateformes de téléchargement. Lundi, 7 milliards de voisins, le marché de l'emploi et les immigrés. Pourquoi et comment ils sont nécessaires pour faire tourner les entreprises? Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.